VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du mercredi 30 novembre 2022, Coupe du monde de football, la Tunisie bat la France 1-0, mais c'est l'Australie qui accompagne la France en huitième de finale dans le groupe D. Satisfait de la CDAO au Mali, le médiateur Goodluck Jonathan a accordé son quitus au processus pour un retour des civils au pouvoir à Bamako. Au Burkina Faso, le Premier ministre rencontre l'ambassadeur français pour renforcer la coopération. Le président français Emmanuel Macron entame une visite d'État de 3 jours ici aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qualifie de barbare les frappes russes visant les infrastructures en Ukraine. Bonsoir. Bienvenue, on commence par le spécial Coupe du Monde et c'est avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La France, championne du monde en titre, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant le match, a terminé première de son groupe malgré sa défaite 1-0 contre la Tunisie ce mercredi dans le groupe D du Mondial 2010.
Tout à fait. Les Aigles de Carthage ne verront pas les huitièmes de finale du Mondial Qatar 2022, malgré donc cette victoire contre la France de Kylian Mbappé. La Tunisie a donc remporté son duel. Je suis en ligne avec Karim Ben Amor, journaliste sportif à Tunis. Karim, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Joie et tristesse à Tunis, n'est-ce pas? Victoire insuffisante pour être qualifié.
Ouais, on va pas dire que c'est une douche écossaise, mais là c'est carrément une douche australienne, étant donné que l'Australie nous a joué malheureusement un mauvais tour avec leur victoire face au Danemark, qui n'était pas du tout inattendue. Mais bon, les Aigles de Carthage n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, hein, étant donné qu'ils n'ont pas réussi au moins à faire match nul, sinon à battre cette équipe australienne dans le match précédent. Ils ont été aujourd'hui vaillants, ils ont joué le jeu, ils se sont portés vers l'attaque. Et puis il y a eu ce but de Wahbi Razi qui a porté l'espoir de tout un peuple. Hein. Les supporters tunisiens étaient nombreux, non seulement à Carthage, mais devant leur poste de télé en Tunisie. Et tout le monde entrevoyait cette première pour la Tunisie, c'est-à-dire passer pour la première fois au second tour d'une Coupe du Monde. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. En maigre consolation, c'est la troisième victoire de la Tunisie en Coupe du Monde. Et on pourra toujours se dire que la Tunisie a battu le champion du monde en titre.
C'est le mérite que vous avez eu justement après cette rencontre. Donc pour vous, la Tunisie a perdu sa qualification contre l'Australie.
Oui, absolument, parce que un premier match fantastique contre le Danemark, dans lequel, contre toute attente, le Danemark qui était présenté comme étant un outsider, une équipe qui avait brillé, qui avait battu 2 fois la France cette année, rappelons-le, hein, en Ligue Europe. Donc la Tunisie a réussi à jouer franc-jeu avec le Danemark, une victoire, enfin un match nul stérile. Et puis par la suite, alors que la victoire aurait dû être normalement acquise sur le terrain face à l'Australie. On a complètement déjoué lors de la première mi-temps et on s'est pris donc un but et qu'on n'a pas pu remonter. Même chose que même situation qu'a vécu le Danemark aujourd'hui. Donc ces Australiens que chacun présentée comme étant l'équipe la plus faible du groupe, eh ben, elle a réussi à faire 2 victoires contre la Tunisie et contre le Danemark et à se qualifier en 8e de finale.
En quelques secondes, Karim, il y a ce but de Griezmann qui a été refusé, donc la VAR qui sauve la Tunisie. Vous êtes journaliste sportif, est-ce que la VAR a eu raison?
Je pense qu'elle a eu raison parce que juste avant le tir de Griezmann, il y a eu, c'est-à-dire on a poussé Montas Altaïbi, un des joueurs français a poussé Montas Altaïbi juste devant Griezmann, donc Altaïbi est tombé, le défenseur central. Griezmann a pu tirer et marquer ce but, donc je pense que c'est cette action qui a poussé la VAR et l'arbitre à annuler le but.
Merci Karim pour toutes ces précisions. Dans ce groupe, l'Australie a également arraché son billet après avoir battu le Danemark sur le même score 1-0. Lionel Messi poursuit son rêve de premier sacre planétaire pour sa 5e Coupe du Monde et Robert Lewandowski est resté les indispensables guides de l'Argentine et de la Pologne. S'affronte également ce soir avec pour enjeu la qualification pour les 8e de finale du Mondial. Au même moment, le Mexique croisera l'Arabie Saoudite. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Et l'une des rares certitudes est que Pologne et Argentine ne seront pas éliminées toutes les deux.
Malgré les appels au boycott, le football reste toujours puissant à la télévision. Voilà. La suite de ce journal, Eric Manirakiza, merci pour ce spécial sur la Coupe du Monde Qatar 2022. La suite du journal, le président rwandais Paul Kagame a accusé ce mercredi son homologue de la République démocratique du Congo d'exploiter la violente crise dans l'est de son pays pour retarder les élections. Dans un discours d'État, M. Kagame a déclaré que le monde entier rejetait la responsabilité de la crise sur le Rwanda, mais que c'était le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui cherchait à profiter des troubles à l'approche des élections. Les combats dans l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin, que la RDC accuse de soutenir les rebelles, ce que Kigali dément. Le processus censé mener à un retour des civils au pouvoir au Mali se déroule bien. C'est ce qu'a déclaré hier le médiateur ouest-africain, décernant un satisfecit à la junte à Bamako. Les détails avec Nani Talani.
Nous sommes plutôt satisfaits de ce qui est en train de se passer. Le programme de la transition se déroule bien, a dit l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et émissaire ouest-africain après avoir rencontré des responsables maliens et le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Il reste des problèmes dans quelques domaines, mais on nous a rassuré que ces problèmes ne vont pas affecter le programme de la transition, a ajouté Goodluck Jonathan. L'ancien président nigérian est arrivé mardi au Mali avant un sommet des dirigeants de la CEDEAO prévu dimanche au Nigeria. L'organisation régionale fait pression depuis plus de 2 ans sur la junte pour qu'elle rende le pouvoir aux civils. En dehors du processus de la transition malienne, les dirigeants ouest-africains vont aussi se pencher sur la situation de 46 soldats ivoiriens retenus depuis juillet au Mali, source de fortes tensions avec la Côte d'Ivoire.
Le procès de 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en 2016, le premier commis en Côte d'Ivoire, qui avait fait 19 morts civils dont des ressortissants européens, s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Sur les 18 accusés, seuls 4 en détention préventive à Abidjan étaient présents à l'ouverture en début d'après-midi devant le tribunal criminel d'Abidjan. Au Burkina Faso, l'ambassadeur de France, Luc Allade, a estimé hier que tout le monde a intérêt à ce que ce pays en proie à la violence djihadiste reste debout. C'était à l'issue d'un entretien avec le premier ministre Apollinaire Kylem de Tambela. Le point avec Michel Joseph.
Luc Allade soutient que la France estime devoir être aux côtés du Burkina Faso. L'ambassadeur de France a rappelé que Paris est son premier partenaire bilatéral avec plus de 100 millions d'euros par an d'engagement à travers l'Agence française de développement. Sur la présence des 400 membres des forces spéciales françaises, Luc Allade a déclaré qu'elles resteront tant que les autorités burkinabées le souhaitent. Il ajoute toutefois que, le cas échéant, ce serait sous un format adapté et plus restreint. La France, qui déploie 3000 militaires au Sahel, a mis fin à l'opération Barkhane et s'est donné 6 mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique. Le 18 novembre, une manifestation hostile a visé l'ambassade française à Ouagadougou et la base militaire de Camboisin, où sont stationnées les forces spéciales françaises.
Un rapport attendu sur un scandale autour de mystérieuses sommes en liquide qui gênent le président sud-africain a été remis aujourd'hui au Parlement. Cyril Ramaphosa est empêtré depuis des mois dans une sombre histoire de cambriolage datant de 2020, au cours duquel des liasses de billets ont été retrouvées cachées dans du mobilier. La remise de ce rapport survient 2 semaines avant une importante réunion du Congrès national africain. Le parti au pouvoir doit se réunir du 16 au 20 décembre pour désigner son prochain leader. La remise du verdict dans le gigantesque scandale de corruption dit de la dette cachée au Mozambique a débuté ce mercredi à Maputo. 19 accusés dans l'affaire sont réapparus dans la matinée devant le tribunal spécial où le procès s'est ouvert l'an dernier. La lecture de la décision est prévu sur 5 jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui sa visite d'État de 3 jours ici aux États-Unis. Elle vise notamment à sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés malgré quelques remous autour du commerce. Jacques Aristide.
Arrivé hier soir à Washington, le chef de l'État français et son épouse Brigitte Macron sont invités par le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden dans un restaurant de la capitale fédérale pour un dîner privé, prélude à l'accueil en grand apparat à la Maison Blanche demain. USA, un moment pour célébrer l'amitié entre nos deux pays, un moment pour progresser ensemble dans une période de grands défis, a tweeté en anglais Emmanuel Macron peu après son arrivée. Il y a un an, la perte d'un méga contrat pour vendre des sous-marins à Canberra avait provoqué l'ire de Paris. Depuis, Washington a multiplié les gestes pour apaiser son allié. C'est sur des thèmes d'avenir que porte la journée de mercredi. Emmanuel Macron a enchaîné les séquences sur la coopération spatiale avec la vice-présidente Kamala Harris et en présence des astronautes français Thomas Pesquet et Sophie Adenau sur la biodiversité et le climat avec des parlementaires américains et sur le nucléaire civil avec des acteurs de la filière. Jugeant le plan de soutien à la transition énergétique voulu par Joe Biden protectionniste, Paris a dit espérer obtenir des exemptions pour certaines industries européennes.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dénoncé aujourd'hui les frappes barbares menées par la Russie contre les infrastructures civiles en Ukraine. Ces bombardements contre les installations énergétiques ukrainiennes affectent des millions d'Ukrainiens chaque jour. Rosine Monezero.
Au cours des dernières semaines, la Russie a bombardé plus d'un tiers du système énergétique de l'Ukraine, plongeant des millions de personnes dans le froid et le noir, a déploré M. Blinken à l'issue d'une réunion du G7 à Bucarest, en Roumanie. Ce sont les nouvelles cibles du président Poutine. Cette brutalisation du peuple ukrainien est barbare, a-t-il ajouté. 9 personnes sont mortes mardi en Ukraine dans des incendies domestiques causés par des bougies, générateurs et appareils à gaz que les Ukrainiens installent chez eux du fait des coupures d'électricité, ont indiqué mercredi les secours ukrainiens. Mercredi, lors d'une réunion avec ses homologues du G7, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a évoqué la nécessité de restaurer rapidement les infrastructures énergétiques civiles du pays. Il a de nouveau appelé leurs alliés à leur fournir les équipements nécessaires qui aideront à compenser les infrastructures énergétiques endommagées, un soutien extrêmement important, selon un communiqué publié par son ministère.
Un employé de l'ambassade d'Ukraine en Espagne a été blessé ce mercredi par une explosion survenue alors qu'il manipulait une lettre, a déclaré la police espagnole. À Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a réclamé un renforcement des mesures de sécurité dans toutes les ambassades d'Ukraine à la suite de cette explosion. L'ancien président chinois Jiang Zemin, qui a imposé la Chine au premier rang des puissances mondiales en la sortant de l'isolement après la répression de Tiananmen en 1989, est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans, rapportent les médias d'État chinois. Jiang Zemin s'est éteint dans sa ville natale de Shanghai des suites d'une leucémie et d'une défaillance multiviscérale. Le groupe État islamique a annoncé ce mercredi la mort de son chef, Abu Hassan el-Hakimi al-Qurashi, précisant qu'il a été tué en combattant les ennemis de Dieu. Le porte-parole du groupe djihadiste a annoncé qu'un nouveau calife collectif des musulmans Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi a été nommé. Il ne précise pas dans son message les circonstances de la mort du chef du groupe, un Irakien. Il ne donne pas non plus d'indications sur le nouveau chef qui porte le même nom al-Qurashi que son prédécesseur qui se réfère à la tribu du prophète Mahomet dont le calife autoproclamé doit être un descendant. Et puis au moins 16 personnes ont été tuées et 24 blessés, principalement des jeunes, ce mercredi dans un attentat dans une école coranique de la ville d'Aïbak, dans le nord de l'Afghanistan. Dans quelques instants, la page magazine de cette session d'information n'allait nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Paris et Washington entendent réchauffer leurs relations. Pour les enjeux de cette visite, Arzuma Koupaoré a joint au téléphone Herman Cohen, ancien ambassadeur américain.
Écoutez, c'est la France qui joue très grand rôle dans l'indépendance des États-Unis. Il y a Rochambeau qui a amené 3 000 hommes et 3 000 têtes de veau aux États-Unis pour rejoindre la guerre contre l'Angleterre à l'époque avec George Washington. Et la route que Rochambeau a pris entre le Massachusetts et Yorktown en Virginie où la guerre a terminé, ça c'est un parc national maintenant. Donc Rochambeau, dans l'esprit des États-Unis, est un grand héros pour les Américains. Et il est sur les timbres, il est sur beaucoup de choses. Donc on se rappelle beaucoup de Rochambeau chez nous.
Qu'est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui sur les relations entre les États-Unis et la France?
D'abord, il y a la guerre en Ukraine. L'Europe, la France aide l'Ukraine, l'Amérique aide l'Ukraine dans cette guerre contre l'invasion de Russie. L'Amérique donne beaucoup plus que l'Union européenne, mais ils sont d'accord. Je crois que ce que président Macron a peur, c'est que quand les républicains contrôlent la Chambre des représentants à partir du 1er janvier, ils vont couper l'aide à l'Ukraine. Donc je crois que ce sera un élément de conversation entre président Macron et président Biden. La guerre en Ukraine donne des problèmes pour la France et pour l'Europe, c'est-à-dire le gaz russe ne vient pas. Donc il faut trouver des autres possibilités pour le gaz. L'Amérique fait beaucoup de LNG, c'est-à-dire le gaz liquéfié. L'Amérique peut augmenter les exportations vers la France et vers l'Europe, n'est-ce pas? Et sur le problème d'inflation, l'Amérique prend certaines mesures qui peuvent faire des difficultés pour les exportations françaises aux États-Unis. Donc, il faut en discuter à partir de demain.
Herman Cohen, ancien ambassadeur américain. En Namibie, le parti au pouvoir a choisi Netumbo Nandi-Ndwetwa comme vice-présidente, ce qui lui permet d'être la première femme candidate à la présidence du pays lorsque l'actuel président va quitter le pouvoir en mars 2024. Reportage de Vitalio Angula depuis Windhoek, le récit avec Michel Joseph.
Pendant un congrès du parti qui s'est terminé plus tard que prévu lundi soir à Windhoek, les membres de la SWAPO au pouvoir ont réélu Netumbo Nandi-Ndaitwa, vice-premier ministre, au poste de vice-présidente. Selon les textes de la SWAPO, elle sera la candidate du parti à la présidence du pays lorsque le président sortant, Hage Geingob, aura terminé son second mandat en mars 2024. Madame Ndaitwa a remporté une victoire facile au premier tour face à deux autres candidats, dont son patron, l'actuel Premier ministre. S'adressant à la VOA, Ndaitwa a déclaré qu'elle était prête à diriger.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de moment facile dans la vie. Chaque époque a ses propres défis. Et je peux vous dire que, quels que soient ces défis, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à les relever. Et je suis l'une d'entre elles. C'est le temps qui m'est donné pour prendre le poste. Je demande aux membres du parti de me donner cette opportunité et je suis prête.
Plus de 700 délégués sont venus à Windhoek pour le congrès du parti, de même que des observateurs de pays voisins comme Mike Binha, commissaire politique de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, au Zimbabwe. Ce dernier a félicité la SWAPO pour avoir mis en place une nouvelle direction par le biais de systèmes et de processus démocratiques.
Dès le premier jour, le congrès s'est bien déroulé et a été très ciblé. Tout le monde était présent et les procédures ont été suivies avec diligence. Nous sommes également ravis que le processus électoral se soit bien déroulé. C'était très transparent.
Le congrès, qui devait durer 3 jours, a été prolongé par un nouveau scrutin pour le poste de secrétaire général adjoint. Aucun candidat n'avait obtenu la majorité au premier tour. Uahekwa Herunga a été finalement déclaré vainqueur, conformément au texte de la SWAPO, qui exige un équilibre entre les sexes aux 4 premiers postes. La SWAPO dirige la Namibie depuis l'indépendance en 1990 et bénéficie d'un fort soutien des électeurs, ce qui ouvre la voie à Madame Daitwa pour devenir la première femme chef d'État dans ce pays d'Afrique australe.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le Conseil national de lutte contre la vie chère fait la promotion du consommer local. Dans le cadre de cette initiative, des Ivoiriens découvrent et dégustent des pains et pâtisseries à base de farine locale. Le reportage à Abidjan de notre correspondante Delphine Boise.
Promouvoir la consommation des produits made in Côte d'Ivoire par des Ivoiriens et faire connaître des artisans boulangers et pâtissiers locaux, le Conseil national de lutte contre la vie chère a récemment offert une dégustation gratuite de pain et pâtisserie faite à base de farine locale telles que le manioc, le maïs, la patate douce et la banane plantain à la population dans 2 grands supermarchés d'Abidjan. Docteur Rani Didis Bakone, secrétaire exécutive, initiatrice du projet.
Si on n'entend pas 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux. Mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations. Et avec des goûts qui sont totalement pareils.
Ces boulangers dont les produits ont été exposés, ainsi que leurs consommateurs, saluent cette initiative.
Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, même on va jusqu'à, pour certains, mais 50-50. Pour le pain ordinaire, il faut être à 30%. Mais pour les quêtes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantain, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des devises et puis également de l'emploi.
Les populations qui ont effectué le déplacement ont savouré ces petites gourmandises made in Côte d'Ivoire. La petite Ange Roxane Aou Kwame, 9 ans, en classe de CM1, ne cache pas son plaisir.
J'ai goûté, c'est très bon.
Pareil pour Michel Lagou, informaticien.
J'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale.
Bané Bakari, agent de bureau, donne ses impressions.
Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons, je pourrais même les conseiller à tout le monde.
Avec la mise sur le marché du pain à base de farine locale, la Côte d'Ivoire envisage de passer à échelle avec les matières premières locales dans la fabrication du pain et réduire au fil du temps les importations de blé et autres céréales. Delphine Bouise, Abidjan. VOA Afrique.
La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre pour soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida et rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause du virus. Les données de l'ONU-Sida sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement des progrès de la lutte contre la pandémie et une réduction des ressources disponibles au cours des deux dernières années marquées par le COVID-19 et d'autres crises mondiales. Ginny Niwa s'est entretenue avec M. Pape Abdoulaye Dem de la Coalition Plus Afrique afin de faire un état des lieux sur la pandémie sur le continent.
La riposte au niveau mondial, la riposte du sida, elle est vraiment menacée. Dans toutes les parties du monde, pas seulement en Afrique, nous assistons à un ralentissement des progrès en matière de réduction des nouvelles infections. Un ralentissement aussi dans l'amélioration de l'accès au traitement et dans l'élimination elle-même de la mortalité liée à des maladies opportunistes. C'est vrai, au cours de ces deux dernières années, il y a eu la concomitance entre la pandémie de sida et le COVID-19, ainsi que les crises économiques et humanitaires qui ont véritablement accru la menace sur la riposte mondiale au VIH. Et aujourd'hui, de nouveaux investissements sont nécessaires pour mettre fin au sida.
Quels sont les pays justement les plus touchés aujourd'hui et pourquoi ?
Nous avons peut-être pas nous n'allons pas présenter peut-être une liste de pays qui sont encore en retard dans la gestion d'Afrique de l'Est du Centre, mais il y a eu quand même des progrès qui ont été notés. Cependant, plusieurs éléments, plusieurs facteurs montrent aujourd'hui que plusieurs pays sont encore loin d'atteindre les objectifs mondiaux d'élimination du VIH.
Et pourquoi cela ? Quels sont les défis ?
Parce qu'il y a plusieurs défis qui sont liés à un manque d'accès aux outils de prévention, par exemple, dans plusieurs pays dans la région d'Afrique de l'Ouest, à un manque d'ouverture des politiques qui aujourd'hui freinent l'accès aux soins pour les populations qui sont les plus vulnérables, les populations clés qui sont les plus touchées par cette épidémie de VIH.
Mais en Afrique, combien ça revient pour un individu, un patient, d'avoir justement accès à ces soins ? Est-ce qu'ils sont pris en charge par l'État ?
Effectivement, dans plusieurs pays en Afrique, de l'Ouest et du Centre, l'accès aux antirétroviraux est vraiment gratuit. Donc, les personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement gratuitement. Cependant, il n'y a pas que les antirétroviraux, il y a plusieurs autres. Il y a un parcours, tout un parcours de soins pour accéder également au traitement. Il y a les bilans, il y a les maladies opportunistes, il y a des médicaments aujourd'hui qui sont différents, également des antirétroviraux qui sont souvent prescrits. Et il y a aussi cette mesure de la toxicité des médicaments qu'il faut aussi prévoir. Et ce sont aussi des éléments qui aujourd'hui ne sont pas souvent pris en charge dans le parcours.
C'était Pape Abdoulaye Dem, directeur de la Coalition Plus Afrique. Ah, yeah. We'll be right back. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.